Bonsoir, oui, dernier cours en effet. Suite et fin de ce cycle sur Machiavel, où on va essayer de voir aujourd'hui la transposition que je vous avais annoncée entre la question de la vertu propre au prince à la possibilité de penser cette fois-ci une vertu citoyenne. Alors, je reviens simplement tout petit peu sur ce que j'ai dit la dernière fois, où j'avais essayé de montrer l'originalité de Machiavel dans l'ensemble de la philosophie politique, non seulement dans la philosophie politique qui l'a précédée, mais même dans celle qui lui succède, puisque on avait vu que Machiavel se distinguait à la fois des traditions métaphysiques et théologiques dans la pensée du pouvoir politique, mais qui se distinguait aussi d'une tradition qui lui a succédé, qui est celle des théories du contrat et qui se fondait sur un état de nature. On avait vu que le point commun de toutes ces théories politiques était de fonder un dogme sur ce qu'était la nature de l'homme et d'essayer de penser la politique à partir de là. Et l'originalité de Machiavel, de ce point de vue-là, était justement de ne pas prendre parti prendre parti a priori sur cette nature humaine, de ne pas fonder avant l'expérience de l'altérité ce que pouvait être cette relation à autrui, puisque il voulait remettre au cœur de la pensée politique, enfin c'est l'interprétation que j'avais essayé de soulever, remettre au cœur de la pensée politique le mystère, ou en tout cas la contingence, plutôt, le terme est plus approprié, la contingence de l'expérience d'autrui et le fait qu'il fallait faire avec cette contingence pour penser la politique. Voilà, ça c'était les aspects vus la semaine dernière. Alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est donc vous parlez de cette transposition de la vertu pensée pour le prince, chez Machiavel, à l'idée de cette vertu qui peut être conçue comme l'engagement citoyen. Et cette transposition, j'aimerais la faire à partir d'une discussion entre des textes, qui sont ceux de Machiavel évidemment, et ceux de Merleau-Ponty, notamment dans un ouvrage dont je vous avais un peu parlé la semaine dernière, qui est Signes de Merleau-Ponty, où non seulement il existe une note de Merleau-Ponty sur Machiavel dans cet ouvrage, c'est un texte vraiment très très beau écrit sur Machiavel, à mes yeux, je suis dans l'opinion là, un des plus beaux textes écrits sur Machiavel, peut-être avec ceux de Lefort aussi, qui sont très très beaux. Et puis surtout une interprétation assez incroyable de la vertu machiavélienne qui, justement, va nous permettre de penser peut-être cette transposition à la vertu citoyenne. Alors, il faut que j'amène peut-être une chose, c'est pourquoi est-ce que Merleau-Ponty s'est intéressé à Machiavel et surtout pourquoi est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux auteurs et en quoi sont-ils proches, malgré leur éloignement dans le temps? Pour expliquer ça, il faut que je revienne d'abord aux conséquences de ce qu'on a vu la semaine dernière, le fait de remettre au centre de la philosophie politique la question de l'altérité. L'une des conséquences à cette nouveauté machiavélienne, et de changer aussi complètement notre rapport à l'histoire. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il n'y a pas de nature de l'homme, à partir du moment où le rapport entre les hommes et leur histoire n'est plus pensé comme chez Aristote par exemple, souvenez-vous l'animal politique, ou chez Saint Thomas, le fait que la cité a pour but d'accomplir, de réaliser la nature humaine, on conçoit l'histoire, d'une certaine manière, l'histoire des hommes, comme guidée par une finalité, un sens, celui de la réalisation de la nature humaine, une nature qui est à définir. Alors, à partir du moment où on ne pense plus une nature de l'homme, où on ne pense plus comme tourné vers une finalité à atteindre, l'histoire elle-même perd son sens. Si on dit qu'il n'y a pas une nature de l'homme à accomplir, il n'y a pas de finalité proprement dit dans l'histoire. Autrement dit, toutes les théories de l'histoire qui se fondent sur une théologie, là encore, sur le fait qu'il existe une fatalité dans le monde, ou sur le fait qu'il existe un destin de l'humanité, ou encore, pour citer des gens après Machiavel, comme Hegel, par exemple, Hegel pour qui il y a une réalisation de l'esprit et de la raison dans l'histoire. Avec Machiavel, le fait d'abolir comme ça l'idée d'une nature humaine et de réintroduire la contingence au milieu de l'histoire fait qu'il n'y a aucune définition a priori du but vers lequel l'histoire doit tendre. Et donc, d'une certaine manière, on arrive à une conception de l'histoire un peu absurde, au sens de Camus, pas de sens. Il n'y a pas de sens. Pas de sens donné, en tout cas. Et au contraire, la vertu de Machiavel, si on la suit avec tout cet exemple du fondateur, consisterait précisément à instituer ce sens. Rien n'est donné, tout est à faire, pour le dire, d'une manière un peu tranchée. Pourquoi, chez Machiavel, pourquoi dire que cette conception de l'histoire est absurde, sans aucun sens ? Bien précisément parce qu'à chaque fois qu'on va établir un certain nombre de valeurs qui vont lier les hommes entre eux, qu'on va établir un certain nombre de principes politiques, un certain nombre d'idéologies qui vont nous guider, la fortune, ce que Machiavel appelle la fortune, va revenir sans cesse dans l'histoire. Il y a toujours un moment où ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait envisagé, trouve une résistance dans le réel. Et donc, toutes les significations qu'on peut donner à l'histoire achoppent à un moment sur quelque chose de plus fort qu'elle, cette fortune qui revient sans cesse, cette contingence, qui nous pousse justement à devoir recréer un sens. Cette vision de l'histoire, qu'on peut, alors elle n'est pas directement décrite par Machiavel, mais il me semble que c'est une des conséquences qu'on peut tirer du fait que Machiavel remet au centre de l'histoire et de la relation entre les hommes la question de la contingence et l'énigme de l'expérience de l'altérité d'autrui. Donc, cette conception de l'histoire, donc, qu'on peut déduire de ce que je vous ai dit, est le lien par lequel Merleau-Ponty va venir à Machiavel, d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas absolument explicite, je vais vous lire certains passages de la préface de Signe. Alors, Signe, c'est un ensemble de textes, en fait, de textes à la fois sur la linguistique, sur la philosophie, sur la phénoménologie, sur des poètes, un certain nombre d'écrits politiques aussi. Ce sont des conférences ou des articles qui ont été écrits par Merleau-Ponty à plusieurs périodes différentes et que Merleau-Ponty a ensuite préfacé en 1960, où il a réuni l'ensemble de ses textes. Et dans ce texte-là, on va retrouver Machiavel, mais entre eux et surtout à la conclusion de ce texte. Mais je vais revenir sur cette conception de l'histoire qui est souligné par Merleau-Ponty pour essayer de voir comment se fait le lien. Le texte démarre sur une comparaison en fait entre la philosophie et la politique. En philosophie, le chemin peut être difficile. On est sûr que chaque pas en rend possible d'autres. En politique, on a l'accablante impression d'une percée toujours à refaire. Nous ne parlons même pas des hasards et de l'imprévu. Le lecteur trouvera ici quelques erreurs de pronostic, Franchement, il en trouvera moins qu'il n'était à craindre. Le cas est bien plus grave. C'est comme si un mécanisme malin escamotait l'événement à l'instant où il vient de montrer son visage. Comme si l'histoire exerçait une censure sur le drame dont elle est faite, comme si elle aimait à se cacher, ne s'entrouvrait à la vérité que dans de brefs moments de désarroi, et, le reste du temps, s'ingéniait à déjouer les dépassements, à ramener les formules et les rôles du répertoire, et à nous persuader, en somme, qu'il ne se passe rien. Je passe une partie du texte. Si on prend les événements en train de se faire, on verra que la philosophie trouve dans l'instant du commencement ses plus sûres évidences et que l'histoire à l'état naissant est songe ou cauchemar. Quand il lui arrive de poser une question, quand les angoisses et les colères amoncelées ont fini par prendre dans l'espace humain une forme identifiable, on s'imagine qu'après cela, rien ne pourra plus être comme avant. Mais s'il y a des interrogations totales, la réponse dans sa positivité ne peut l'être. C'est plutôt la question qui s'use, un état sans question qui survient, comme une passion un jour s'arrête, détruite par sa propre durée. Ce pays saigné par une guerre ou par une révolution, le voilà soudain intact, entier. Les morts sont complices de l'apaisement. Ce n'est qu'en vivant qu'ils pourraient recréer le manque et le besoin d'eux qui s'effacent. Les historiens conservateurs enregistrent comme chose qui va de soi l'innocence de Dreyfus et n'en restent pas moins conservateurs. Dreyfus n'est pas vengé, pas même réhabilité. Son innocence devenue lieu commun ne vaut pas cher au prix de sa honte. Elle n'est pas inscrite dans l'histoire au sens où elle lui fut volée, où elle fut revendiquée par ses défenseurs. À ceux qui ont tout perdu, l'histoire ôte encore et elle donne encore à ceux qui ont tout pris. Car la prescription qui enveloppe tout, innocente l'injuste et dégoûte les victimes, l'histoire n'avoue jamais. La langue de Merleau-Ponty est un peu complexe. Elle est très belle, mais elle est complexe. C'est difficile de suivre exactement l'idée qu'il veut ici mettre en évidence. Pourquoi cette politique toujours à refaire? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de cette percée toujours à refaire? La phrase qui me semble extrêmement parlante ici, à travers l'exemple qu'il donne de Dreyfus, c'est « Les historiens conservateurs acceptent aujourd'hui comme un événement qui va de soi l'innocence de Dreyfus et n'en restent pas moins conservateurs. » Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Elle veut dire que on a beau savoir aujourd'hui, avec l'affaire Dreyfus, du point de vue de l'histoire, on a beau savoir quelles peuvent être les conséquences des préjugés liés à l'antisémitisme. On le sait. On sait que le fait de trop appuyer des valeurs traditionnalistes, fermées, bornées, conduit à des erreurs judiciaires comme celles qui ont touché Dreyfus. Et pourtant, les historiens qui savent ça ne changent pas leur idéologie pour autant. Autrement dit, pour le dire d'une manière très simple, il n'y a pas de leçon de l'histoire. On ne retient pas les leçons de l'histoire. Et au moment où... Bonsoir. Au moment où certaines valeurs, certains événements font surgir certaines valeurs, plus rien ne sera comme avant. Où on a l'impression qu'on a enfin trouvé des valeurs qui peuvent nous lier, où on a enfin trouvé quelque chose qui réalise vraiment la coexistence pacifique des hommes, le temps fait son œuvre et la fortune revient. Ces valeurs sont oubliées. Et elles sont... Alors, ce sera tout le problème. La question est de savoir justement quelle attitude adopter face à cela. Parce que si on adopte cette conception de l'histoire, la première chose qui vient en tête, c'est la résignation. À quoi bon ? À quoi bon s'engager politiquement ? À quoi bon lutter pour des valeurs ? À quoi bon essayer de faire surgir ces valeurs ? À quoi bon essayer de fonder quelque chose de commun si de toute façon, tout cela est destiné à disparaître un jour ? Et si de toute façon, la fortune, je dis la fortune même si Merleau-Ponty n'emploie pas ce terme, la fortune ressurgira un jour, réintroduira la contingence et fera à nouveau à chauffer les valeurs et le lien qui existe entre les hommes. Et c'est là que, alors, je passe un certain nombre de pages, dans lesquels Merleau-Ponty, vous pourrez lire cette préface, réanalyse avec beaucoup de subtilité l'ensemble des événements politiques qui ont marqué sa période, c'est-à-dire les années 40 à 60, là, essentiellement. Il n'a jamais parlé de Machiavel pendant toute la préface. Et dans la conclusion de cette préface, il a ce mot, la conclusion qu'il faut tirer de tout cela, il dit, la conclusion, ce n'est pas la révolte, là ça vise, à mon avis, Sartre, qui est, Merleau-Ponty et Sartre étaient très amis, et du point de vue politique, ils ont eu beaucoup d'incompréhension, Sartre reprochant à Merleau-Ponty de ne pas suffisamment s'engager, justement, et de ne pas être dans la révolte contre les injustices. Et là, il y a à mon avis une petite pointe contre son ami dans la vie et ennemi théorique, d'une certaine façon. La conclusion, ce n'est pas la révolte, c'est la virtu. Et il le met en italique, il le met aussi en latin, virtu, sans aucune résignation. La virtu sans aucune résignation. L'allusion à Machiavel ici est claire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour face à cette désillusion permanente que le politique incarne? La virtu. Et donc il faut comprendre ce que Merleau-Ponty veut dire par là. Parce que dans ce qu'il vient de décliner, ça vous le verrez si vous lirez, mais on n'a pas l'impression que Merleau-Ponty attend l'homme providentiel ou... Non, le concept là apparaît comme ça, il n'est pas défini, mais il parle de virtu sans aucune résignation. On sait une chose, il ne faut pas se résigner. Autrement dit, ne pas croire que parce qu'il y a des illusions, il y a nécessairement fatalité. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de comprendre ce que Merleau-Ponty veut dire par cette virtu sans aucune résignation. Et c'est là que la note sur Machiavel, qui est dans le même livre, apporte un certain nombre d'éclaircissements. La note sur Machiavel a été écrite bien avant le texte de la préface. C'est en fait une conférence que Merleau-Ponty avait présentée à Mexico, elle date de 1949, je crois. Dans cette note, on apprend notamment une chose, Merleau-Ponty, dit que la vertu chez Machiavel, elle désigne pas, selon lui, l'opportunisme, enfin pas uniquement, en tout cas l'opportunisme du chef d'État qui va savoir saisir l'occasion de prendre le pouvoir, elle désigne de manière très simple un moyen de vivre avec autrui. Ce sont les mots mêmes de Merleau-Ponty. La vertu désigne le moyen de vivre avec autrui. Et Merleau-Ponty va plus loin. Il dit même que Machiavel est le premier à véritablement prendre en compte autrui dans le problème politique. Il faut le faire. Alors que la question d'autrui est quand même au centre du politique. Je vous lis un passage de la note sur Machiavel, où on va essayer de comprendre pourquoi Merleau-Ponty dit cela de Machiavel. C'est dans la note sur Machiavel. Car le jugement public, selon l'apparence, qui convertit la bonté du prince en faiblesse, n'est peut-être pas si faux. Donc là, Merleau-Ponty fait allusion au... vous savez, au chapitre 15 du Prince, où Machiavel dit que ce qui peut être vertu dans la vie courante peut devenir vice dans l'exercice du pouvoir. Donc, je répète, car le jugement public selon l'apparence qui convertit la bonté du prince en faiblesse n'est peut-être pas si faux. Qu'est-ce qu'une bonté qui serait incapable de dureté? Qu'est-ce qu'une bonté qui se veut bonté? Une manière douce d'ignorer autrui et finalement de le mépriser. Machiavel ne demande pas qu'on gouverne par les vices, le mensonge, la terreur, la ruse. Il essaie de définir une vertu politique qui est pour le prince de parler à ses spectateurs muets autour de lui et pris dans le vertige de la vie à plusieurs. Véritable force d'âme, puisqu'il s'agit, entre la volonté de plaire et le défi, entre la bonté complaisante à elle-même et la cruauté, de concevoir, ça c'est très important, de concevoir une entreprise historique à laquelle tous puissent se joindre. Cette vertu-là n'est pas exposée au renversement que connaît le politique moralisant, parce qu'elle nous installe d'emblée dans la relation à autrui qu'il ignore. Le « qu'il » ici, c'est le politique moralisant. Donc, que veut dire cette citation ? Merleau-Ponty dit ici, que dit Machiavel ? En politique, il ne faut pas se fonder sur des principes et sur la morale. Comment Merleau-Ponty comprend-il cela ? Il dit, mais oui, si autrui est vraiment le cœur du politique, qu'est-ce que ça veut dire suivre des principes à la lettre ? Si ce n'est appliquer bêtement des dogmes sans tenir compte de la singularité, non seulement des circonstances, mais aussi d'autrui, bon, du peuple auquel on a affaire. Si vous voulez tenir compte réellement d'autrui, on ne peut pas, c'est impossible, suivre des principes à la lettre. Et lorsque Machiavel dénonce cela, aux yeux de Merleau-Ponty, ça veut dire restaurer la relation à autrui dans le politique. Alors, comment le restaurer ? Ben c'est justement à travers le concept de fortune. Parce que ce concept de fortune, je vous l'ai dit, il indique les moments dans l'histoire où les valeurs que l'on avait établies, ou les principes que l'on avait établis, ne lient plus les hommes entre eux, où il y a échec de ces principes. Et alors, de ce point de vue-là, il peut se passer deux choses. À partir du moment où ces principes échouent à lier les hommes entre eux, deux choses peuvent se passer. Ou bien les hommes vont se diviser, se disperser, ou bien alors on va maintenir par le dogme et la violence ce principe, quelle que soit la vie des personnes considérées. Autrement dit, on tombe dans quoi ? Dans la dispersion, dans la division ou dans l'oppression. Qu'est-ce que c'est ce moment-là ? Ce qu'on a appelé le moment de l'occasion la semaine dernière. Le moment où les valeurs achoppent, où les principes qui lient les hommes entre eux disparaissent, ou en tout cas révèlent leurs illusions, les individus se divisent et il peut y avoir oppression. Et si, à ce moment-là précisément, dans cette occasion-là, on ne repense pas de nouvelles valeurs, alors il y a un risque, Merleau-Ponty le dit, pour l'humanisme. Et ça c'est quand même assez fort, parce que pour Merleau-Ponty, et vous le lirez aussi dans la note sur Machiavel, Machiavel est le premier penseur à poser les conditions d'un humanisme véritable en politique. Je vous lis. C'est à la toute fin de la note sur Machiavel. Et il faut qu'on comprenne ce qu'il entend par humanisme. Si l'on appelle humanisme une philosophie de l'homme intérieur qui ne trouve aucune difficulté de principe dans ses rapports avec les autres, aucune opacité dans le fonctionnement social, et remplace la culture politique par l'exhortation morale, Machiavel n'est pas humaniste. Autrement dit, si l'humanisme c'est la morale, d'accord, Machiavel n'est pas humaniste. Mais, si l'on appelle humaniste une philosophie qui affronte comme un problème le rapport de l'homme avec l'homme et la constitution entre eux d'une situation et d'une histoire qui leur soit commune, alors il faut dire que Machiavel a formulé quelques conditions de tout humanisme sérieux. Si on essaye de replacer cette citation dans le contexte du cours là, qu'est-ce que dit Merleau-Ponty ? Le problème, ce n'est pas la morale, ça ne tient pas compte d'autrui. Si on veut vraiment une philosophie humaniste en politique, il faut nécessairement revenir à cette expérience d'autrui. Et quel est le problème principal à ce moment-là? Merleau-Ponty dit constituer entre eux une situation et une histoire qui leur soient communes. Autrement dit, c'est ce qu'on a appelé le fondement. Le fondement. Quelque chose par rapport à quoi se situer. Donc, si je reviens un peu sur les différents éléments de cette Wirtu sans aucune résignation, face à cette conception de l'histoire marquée par la contingence et les désillusions. Une première attitude face à cette histoire serait la résignation. Et Merleau-Ponty dit justement, bien au contraire, il faut savoir que tout sera sans cesse à refaire dans l'histoire. Et que, justement, s'il y a une histoire de l'humanité, c'est parce que les valeurs ont sans cesse été reconstruites, refaites, refondées, sans cesse. Il n'y a pas de raison d'en désespérer, c'est le sens, entre guillemets, l'absence de sens de l'histoire. Et la Wirtu consiste en quoi? Elle consiste à avoir conscience de cette désillusion et à prendre à bras le corps, si je puis dire, le problème de la relation à autrui au moment où l'ensemble des valeurs qui nous liaient finissent par tomber. Et ça, c'est la condition pour Merleau-Ponty d'un humanisme véritable. Alors, de ce point de vue-là, se pose une question. D'ailleurs, elle m'avait un peu été posée déjà par l'un d'entre vous sur la question du fondement, et elle revient de manière prégnante. Pourquoi Merleau-Ponty parle d'humanisme ici? Parce que si on garde notre définition du fondement, ce par rapport à quoi on se situe, au regard de l'histoire, on peut tout à fait considérer que le nazisme est, dans une certaine mesure, un fondement. Parce qu'il a bien, pendant un moment de l'histoire, été une idéologie, aussi horrible soit-elle, par rapport à laquelle on a dû se situer. Et donc, la question qui se pose vraiment, parce que Merleau-Ponty parle d'humanisme quand même, la question qui se pose, c'est si le fondement, c'est le seul problème, alors on peut justifier tout type d'idéologie et il n'y a plus du tout de bien et de mal en politique. Donc la question est, comment est-ce qu'à partir de là, on peut avoir une certaine éthique politique? Parce que créer une idéologie, créer des valeurs, manifestement, ce n'est pas suffisant. Alors c'est sur ce point que Merleau-Ponty a quelques phrases un peu énigmatique et qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Parce qu'il aborde ce problème, mais de manière très rapide et très elliptique. Notamment dans la préface de Signe, dont je vous ai déjà parlé. Voici ce qu'il écrit. On est dans le contexte politique, là. Le mal n'est pas créé par nous ou par d'autres. Il naît dans ce tissu que nous avons filé entre nous et qui nous étouffe. Quels nouveaux hommes, au pluriel, quels nouveaux hommes assez durs seront assez patients pour le refaire vraiment? Alors, de quoi vient le mal en politique? Merleau-Ponty dit du tissu qui naît entre nous. Autrement dit, d'un certain rapport que nous avons au fondement, à ce qui nous lie. À partir de quel moment, si on essaie de comprendre, à partir de quel moment ce tissu peut nous étouffer? Ce sont ces termes. Ce qui étouffe, ce qui oppresse, on l'a vu, c'est le dogme. C'est-à-dire que le moment où le tissu étouffe, c'est le moment où le principe et les valeurs ne sont justement plus des valeurs liantes et sont appliquées ou suivies de manière très dogmatique. Je vais essayer de donner simplement une situation concrète. Ce que Merleau-Ponty est en train de nous dire, c'est qu'à partir du moment où une société se divise, il y a l'occasion pour deux choses. Ou bien on est passif, on se dit, voilà, il n'y a pas de valeur donnée, et de toute façon, quoi que je puisse faire, ça ne changera rien. Et à ce moment-là, vous laissez l'occasion à un capitaine, et je dis bien capitaine, pour suivre une des figures qu'on a développées la semaine dernière, un capitaine qui a certains aspects de la vertu, pour prendre le pouvoir et exercer la tyrannie. Ou bien, au contraire, il y a plusieurs nouveaux hommes assez patients pour refaire ce tissu, pour reprendre en charge la question de la fondation. Et à ce moment-là, ce sont des hommes excellents. Et qui est cet homme excellent? Qui est l'homme providentiel? Merleau-Ponty le met au pluriel. Alors là, on est dans l'interprétation. Mais s'il le met au pluriel, à mon avis, c'est le citoyen. Donc les hommes excellents, ce sont les citoyens. Pourquoi je fais cette interprétation? Elle n'est pas totalement gratuite. Parce que Merleau-Ponty, dans un certain nombre d'analyses politiques qu'il a faites, a toujours essayé d'analyser les phénomènes politiques sans entrer dans la diabolisation. Et pour essayer de comprendre des phénomènes structurels. Je vais vous en donner un exemple. Il instaure toujours, Merleau-Ponty, une espèce de forme de responsabilité collective. Je vous donne un exemple assez extraordinaire à mes yeux. C'est un texte qu'il écrit en 1945. La date est très importante. Un texte qui s'appelle « La guerre a eu lieu » et qu'on trouve aujourd'hui dans le recueil « Sens et non-sens » de Merleau-Ponty. Il parle de l'antisémitisme en 1945. Imaginez le contexte. Voilà ce qu'il dit. Voilà, c'est pas mal. Voilà ce qu'il dit sur l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas une machine de guerre montée par quelques Machiavel et servie par l'obéissance des autres. Pas plus que le langage ou la musique, il n'a été créé par quelques-uns. Il s'est conçu au creux de l'histoire. Les meneurs et les forces élémentaires, le cynisme et la bêtise, cette conception roublarde et policière de l'histoire est finalement naïve. Elle prête trop de conscience aux chefs et trop peu aux masses. Elle ne voit pas le milieu entre l'action volontaire des uns et l'obéissance passive des autres, entre le sujet et l'objet de l'histoire. Et ce que les Allemands nous ont fait comprendre au contraire, c'est que les chefs sont mystifiés par leur propre mythe et les troupes demi-complices, que personne ne commande absolument et personne n'obéit absolument. On est en 1945, c'est-à-dire au moment où on découvre l'horreur des camps de concentration, etc., où toutes les passions sont exacerbées du point de vue de ce qui vient de se produire, où évidemment on cherche des responsables, et d'ailleurs ça c'est assez intéressant puisque quand on voit par exemple certains phénomènes qui ont lieu après-guerre, notamment ce phénomène où on a rasé la tête à toutes les femmes qui avaient eu des relations amoureuses avec des officiers allemands. La plupart des gens qui étaient les plus véhéments dans la condamnation de ces femmes étaient eux-mêmes des collaborateurs, enfin, par certains aspects. C'est assez intéressant ce genre de phénomène. Et Merleau-Ponty dit, là, ce qui anticipe très largement, par exemple, les propos de Hannah Arendt sur Eichmann dans La banalité du mal, que Bien sûr, il y a des responsables qu'il faut condamner. Mais il est trop simple de diaboliser. On prête trop de conscience aux chefs, dit Merleau-Ponty, et trop peu de conscience aux masses. L'antisémitisme est un phénomène structurel. Et là, c'est très dur à entendre. Il instaure, là, Merleau-Ponty, la responsabilité collective. Pourquoi ? Parce que phénomène de crise monstrueux au début des années 40, dans les années 30 aussi, et que à ce moment-là, il était tellement plus facile de retrouver des valeurs liantes dans la désignation d'un bouc émissaire que d'essayer de reconstruire ces valeurs. Autrement dit, il était tellement plus facile de suivre un dogme pour tout le monde, hein, que ce soit pour les Allemands, enfin les nazis, enfin non, lui-même le peuple allemand, mais dans le peuple français aussi, hein, du point de vue de l'antisémitisme, le peuple français c'est pas... Enfin, bref, c'était présent aussi, et l'affaire Dreyfus c'est peu de temps avant. Donc, là, Merleau-Ponty réinstaure bien la responsabilité collective. Il faut une lucidité politique et un courage, à mon avis, assez incroyable pour écrire ça en 1945. Essayez d'imaginer quand même. Enfin, bref. Donc, revenons à cette question de la vertu. La raison pour laquelle j'interprétais donc cette phrase, quels nouveaux hommes seront assez patients et assez durs pour refaire ce tissu qui nous lie. Là, il y a vraiment, je crois, chez Merleau-Ponty, une exhortation à prendre en charge pour chacun d'entre nous l'engagement dans l'institution de nouvelles valeurs. Parce que le mal politique, sa première source, ce n'est pas une idéologie en tant que telle. L'idéologie tyrannique, l'idéologie raciste, elle naît toujours dans un certain contexte qui est lequel ? Celui de la passivité des citoyens. Et à partir du moment où il n'y a plus de vertu citoyenne, c'est-à-dire d'action politique qui allie à la fois le souci de la fondation et donc la question de la puissance et de l'action concrète, et en même temps le souci du fondement, c'est-à-dire le souci de quelque chose qui va pouvoir dépasser la contingence de la relation à autrui et essayer de trouver un certain nombre de valeurs liantes, quand ce souci n'existe plus, quand on s'en remet à des dogmes, quand on s'en remet à l'individualisme aussi, il y a de fortes chances de créer le terreau pour le mal politique. Et donc, il me semble que c'est vraiment sur ce point-là qu'on peut transposer la vertu définie par Machiavel, qui n'est propre qu'au prince, à une vertu citoyenne. Parce que la vertu citoyenne, c'est celle qui ne doit jamais dissocier le souci de l'intérêt général d'une action effective qui agit en ce sens, enfin, qui agit, oui, qui se déroule en ce sens. Ne jamais dissocier dans la vertu, chez Machiavel, souvenez-vous, tout ce qui est relatif à la puissance d'action, à la puissance d'agir. Il faut être armé, il faut être impétueux, il faut agir. Mais, en même temps, cette action doit toujours avoir pour but l'institution d'un fondement. Là, on peut revenir à une petite distinction qui avait été faite dès le premier cours entre machiavélien et machiavélique. L'homme machiavélique, c'est celui justement qui va saisir l'occasion de prendre le pouvoir en fonction d'un dogme, en fonction de la restauration de principes déjà établis mais qui sont obsolètes. Et au contraire, être machiavélien, c'est l'homme excellent, c'est l'idéal que doit poursuivre chaque citoyen, c'est-à-dire celui de reprendre en main son destin politique au moment où des signes d'oppression ou des signes de division entre les hommes se font sentir. Essayons de peut-être prendre un exemple pour essayer de voir en quoi cette pensée de Machiavel Merleau-Ponty peut nous aider au regard de l'actualité aussi peut-être. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde arabe. On est vraiment dans le contexte, là, à mon avis, de l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu oppression, il y a eu division, et aujourd'hui, deux chemins se présentent. Deux chemins. Lesquels ? Alors, je fais un petit détour. J'avais eu l'occasion d'assister au Forum Libération, au dernier Forum Libération qui avait eu lieu, et plusieurs personnes qui avaient participé aux révolutions arabes, à la fois en Égypte et en Tunisie, étaient venues parler, et ils avaient dit que on est très inquiet en Occident du retour de l'islamisme au pouvoir après les révolutions arabes. Et alors, certains étaient inquiets aussi, mais ils nuançaient un peu la chose en disant que aujourd'hui, en Tunisie ou en Égypte, par exemple, la séparation de l'Église et de l'État est quelque chose qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, la séparation de l'Église et de l'État. Et s'il y a une démocratie arabe qui doit naître, peut-être qu'elle doit intégrer l'islam, même si ce n'est pas compréhensible pour nous. La séparation de l'islam fait vraiment partie du quotidien et de la vie des gens, beaucoup plus que le christianisme n'a pu faire partie de notre vie en Occident ces deux derniers siècles, disons. Et donc, quels sont pour revenir à cet exemple, quels sont les deux aspects qui se présentent là ? Quelle est l'occasion qui se présente ? Ben, il y a une tentation, elle est claire, on le voit dans les votes et dans ce qui se passe, il y a une tentation qui est de revenir au dogme de l'islamisme radical. Elle existe, cette tentation. Et il y a aussi un autre chemin qui est, alors, soit laïque, soit d'une, comment on peut dire ça, d'une relecture de l'islam qui serait compatible avec un modèle démocratique, mais un modèle démocratique qui serait propre au monde arabe, qui n'a rien à voir avec le modèle occidental. Et là, vous avez, à mon avis, deux possibilités qui s'ouvrent et qui sont très, très problématiques et, à mon avis, enfin, je ne sais pas, je n'y suis pas allé, mais ça doit être extrêmement compliqué à vivre en ce moment. Mais on a ces signes. On a ces signes. Il y a eu l'oppression. Et l'oppression de plusieurs dictateurs est la raison de ces révolutions. Il y a eu la division. Et il y a encore la division. Il y a eu le manque de liberté. Et là, il y a vraiment l'occasion de fonder un nouveau pouvoir. Mais quelle vertu va être suivie ? Celle du capitaine ou celle de l'homme excellent ? Les deux peuvent se présenter là. Voilà, je crois que, enfin, il me semble que cet exemple peut être parlant pour essayer de voir ce que peut être la vertu citoyenne, la vertu transposée, enfin, le concept machiavélien de vertu au concept de vertu citoyenne. Et je voulais quand même terminer sur une petite chose qui est intéressante chez Machiavel, qui est comme quoi il se trahit aussi lui-même. à quoi elle peut bien servir cette vertu. Il y a une originalité chez Machiavel. Je vous ai dit, quand il s'intéresse à l'anthropologie, il ne donne jamais de règles. Aucune règle. Et quand il en donne, c'est pour les contredire aussitôt. Il n'y en a qu'une qui fait exception. Une seule, à ma connaissance. Vous direz si vous lisez autre chose. Il y a une chose qui est entrée dans l'homme et que l'homme n'oublie absolument jamais à partir du moment où il l'a vécu. Une chose. C'est le goût de la liberté. Machiavel le dit. Et c'est la seule chose sur laquelle il ne revient pas dans Le Prince. Et dans les discours sur Tite-Live non plus. Peut-être que là, il y a quelque chose à creuser pour essayer de voir justement en quoi cette liberté est une liberté politique et vertueuse qui appelle l'engagement citoyen. Voilà, je voulais terminer là-dessus pour aujourd'hui et cette dernière séance.